fight on the seas and oceans. We shall defend our island, whatever the cost may be. We shall never surrender.
La CVRP, Cinéma Vidéo Radio Production, vous présente une cassette OB.
Thank you. Some hand in hand, and some gathered together in bands. The bleeding hearts and the artists make their stand. And when they've given you their all, some stagger and fall. After all, it's not easy. Banging your heart against some mad bugger's wall.
Radio Canut vous présente dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre. Maxime. Production. Mise en scène. Junier Jean-Pierre. Enregistrement. CVRP. Termine sa passion pour Mathilde. Mais est-il vraiment guéri? Il retourne vers sa femme, vieilli, amaigri. Ce n'est plus le même homme. Il est sorti de la berline. Sa femme est surprise de le voir ainsi, mais croit que c'est dû à la tentative de suicide de son fils. Je suis heureuse que tu sois venu nous rejoindre. Elle le prend par le bras et le fait entrer. Notre fils va beaucoup mieux. Ce n'est pas très grave. La blessure n'est que superficielle. Je veux le voir. Oui, je vais te mener. Il frappe et entre dans la chambre de Maxime. Il est au lit.
Père, vous êtes venu?
Il s'approche. Se penche vers son fils et l'embrasse.
Comment vas-tu, Maxime?
Ça va mieux.
C'est bien. Louise, porte-moi la chaise. Je veux m'asseoir.
Elle lui porte la chaise et il s'assoit près du lit.
Louise, laisse-nous, je t'en prie. J'ai à lui parler.
Bien, mon ami.
Et elle sort de la chambre.
Se méfier des passions. Elles peuvent te mener très loin, trop loin. Elle nous rend fous. Nous avons vécu tous deux des passions. Elle nous a fait faire, elle m'a fait faire des choses ignobles. Si tu savais, pour elle j'ai tout renié, violé, la famille, le sens même de la vie. Mais lorsque je me suis aperçu que je m'enfonçais de plus en plus profondément, que j'allais être plus bas que la bestialité, j'ai eu de la chance. Quelque chose m'a fait stopper ma descente et m'a ouvert les yeux. Car la passion vous rend aveugle. Je suis revenu à la vie. Je te demande de revenir à la vie. Je sais. Tu souffres pour le moment, mais il vaut mieux souffrir que de faire des folies. Et puis, malgré ces souffrances, la vie vaut la peine d'être vécue. Pour le moment, tu es malheureux, mais qui te dit que si dans quelque temps, tu ne seras pas heureux? Malgré nos histoires, la terre continue à tourner, les saisons se font, les gens naissent. Mort, et cela malgré nos passions, la nature s'en fiche. Tu as fait une faute grave, tu dois payer en passant quelque temps dans un séminaire. Accepte, l'on doit payer ses erreurs. Moi aussi, sûrement un jour, je paierai mes fautes. J'attends. C'est dur. Allons. Mon fils, sois un homme.
Oui, père, j'irai au séminaire.
C'est bien. Maintenant, je vais me reposer.
Et il sort de la chambre.
te dis, oui, j'irai au séminaire. Oui, j'irai au séminaire, puisque vous le souhaitez. Et puis, la vie n'a plus d'importance pour moi. Les jours passent, Maxim se rétablit, son père devient taciturne, il ne parle pas, il reste assis des heures au salon. Il aimerait oublier son cauchemar, mais revit chaque nuit son crime et Mathilde le hante encore. Il la voit dans son fiacre, le visage sans expression, lui criant le suicide de Maxime, et ce fiacre qui disparaît dans la nuit sans un mot d'elle. Où est-elle maintenant? Un mois plus tard, Maxime est rétabli. Il part pour Paris en laissant un père taciturne et plein de remords et une mère aimante. À Paris, au séminaire, c'est une vieille bâtisse grise. La discipline y est dure, mais chacun s'y accommode. Les jeunes gens qui y sont plutôt issus de familles campagnardes. Ils ont pour la plupart le physique et les gestes grossiers. L'enseignement y est incomplet. L'on leur cache tout de ce qui est de la vie même, c'est-à-dire ce qui pourrait les rapprocher de la vie. Ce qui, à part la religion, et le savoir ordinaire les rend ignorants en tout. Pour la plupart, ils sont assez jeunes, et la vie enfermée entre eux donne lieu à des habitudes et des amitiés particulières. Et comme ils sont ignorants, la plupart ne se rendent pas compte de leurs désirs et de leurs penchants envers certains de leurs camarades. Les plus beaux d'entre eux ont une vraie cour de fidèles. certains sont entrés au séminaire, c'est pour sortir de leur état social où leur famille les ont mis. Mais, pour le plus grand nombre, ils ont vraiment la foi, une foi simple d'enfant. Maxime se trouve au milieu de tout cela comme un étranger. Il trouve ses camarades ou grossiers ou simples d'esprit. La vue en communauté l'agace. Dans le dortoir, une odeur de sueur, de masturbation, les ronflements et les rots le dégoûtent. Au pensionnat, il a déjà connu la vie en commun, mais c'était avec des enfants ou de jeunes adolescents. La nourriture y est infecte et les portions pas assez grosses. Il trouve l'enseignement trop simpliste et trop sélectif. Les professeurs enseignent mécaniquement sans changer une virgule de ce qu'il a décrit. Et si on leur demande une question, ils redisent ce qu'ils viennent de dire. Les journées à Maxime lui semblent longues et tristes. Il n'a personne à qui parler et puis il a toujours dans son corps Gisèle. Elle est sans doute mariée maintenant et c'est ma punition. Une fois par mois, il écrit à ses parents. Il ne leur dit pas grand-chose, sauf que tout se passe bien. Ça ne sert à rien de les inquiéter. Sa mère lui écrit que son père a beaucoup vieilli et qu'il reste retiré à Paris pour ses affaires. Les jours passent, tristes et monotones. Maxime les compte et a décidé de quitter le séminaire. Au bout de 2 ans. Ses parents sont entrés à Paris. Le père passe ses journées comme une âme en peine à aller aux abords du quartier où habitait Mathilde. Il pense qu'elle reviendra. Sa femme s'inquiète. Il ne travaille plus, a maigri, vieilli, ne parle pas. Rien ne l'intéresse. Absolument rien. l'histoire de Maxime qui l'a mis dans cet état. Il faudrait qu'il fasse un voyage, cela le distrairait. Mais chaque fois que je lui en propose un, il refuse. Il refuse. Que faire ? Un matin, coup de froid, et encore à traîner dans le quartier de Mathilde. Les gens se sont habitués à voir déambuler ce vieillard, l'air dans ses pensées. Lui ne voit rien, n'entend rien. Arrivé devant l'immeuble où habitait Mathilde, il voit sur le trottoir d'en face, en regardant les fenêtres, que son appartement, les volets n'ont pas été fermés, il n'y a pas de rideau, ce qui prouve qu'il n'a pas été loué, mais il voit qu'il a été mis pour la première fois l'écriteau à louer. Or il se dit, oui, je vais vivre chez Mathilde dans cet immeuble. Je respirerai son odeur avant qu'elle ne revienne. Il traverse la rue et entre dans l'allée. Il frappe à la loge de la concierge qui lui ouvre.
Oui ?
Je désirais louer l'appartement.
C'est bien. Je vais chercher les clés.
Elle va chercher les clés. Elle est revenue avec les clés.
Venez, je vais vous montrer.
Il la suit, qui monte aux étages. Elle ouvre la porte et le fait entrer. Il a le corps qui bat, reconnaît tout de suite l'odeur, la lumière, les meubles. Seuls les rideaux manquent.
Les meubles sont au propriétaire. Il faudra y prendre très soin.
Je croyais qu'il appartenait à Mathilde.
Quoi ?
Dit la concierge qui n'a pas compris.
Rien.
Mais ce qu'il émeut le plus, c'est la clarté. Car chaque appartement a sa lumière propre. Ceci est dû à l'extérieur, aux fenêtres, tapisseries et meubles. Si l'on habite dans une rue étroite, l'on a moins de lumière. Si les fenêtres sont petites aussi, la tapisserie éclaircit ou assombrit, et plus les meubles sont grands, plus ils font de l'ombre. Là, chez Mathilde, tout est clair, parce que la tapisserie est claire, les meubles petits et qu'il n'y a pas de rideau. Godefroy voit le parquet qui brille. Il effleure de sa main l'immeuble. En ouvrant l'armoire de la chambre, il voit pendu à un cintre le déshabillé rose de Mathilde. Ce ceci lui fait mal. Il referme la porte.
C'est bien, je prends.
Le loyer de...
Je prends.
Vous emménagez quand ?
Maintenant.
Nous allons voir le propriétaire. Il est à l'étage au-dessus.
Une heure plus tard, après les états des lieux, il est seul dans l'appartement. Le jour a décliné. Il va dans la chambre.
Ouvre l'armoire. Voit le déshabillé rose. Le caresse.
Mathilde.
Prend le cintre et va le déposer sur le lit. Et s'assoit au pied du lit. Il regarde le déshabillé fixement, le cerveau vide. Le soir tombe, tout doucement, la chambre s'assombrit petit à petit. Godefroy n'a pas mangé de toute la journée, la tête lui tourne un peu. Au bout d'un moment, il voit tout tourner, le souffle rapide, ses yeux se ferment. Il les rouvre et se souvient de rien. Il ne sait plus où il est, ni ce qu'il fait. Puis, il voit. Sur le lit, voit sur le lit, Mathilde, il la voit allongée dans son déshabillé rose, elle semble l'attendre. Se penche vers elle, se couche sur elle, l'étreint. Oui, pour la première fois, il la sent vraiment à lui. Docile, il s'enivre de son corps, froisse son vêtement, il transpire, il a le souffle court. Il ouvre la bouche pour lui donner un baiser sur les lèvres, aspire. Essaye d'enlever avec ses mains ce qui est crocheté dans sa bouche. Il a le souffle coupé. D'un geste brusque, il tombe du lit et amène avec lui Mathilde. Qui tombe sur lui. Il a l'impression qu'elle s'appuie sur lui pour l'étouffer. Ses vêtements qui voltigent sur lui, sa bouche crochetée. Louise est inquiète. Cela fait 48 heures qu'elle n'a pas eu des nouvelles de son mari. Elle est au salon et marche nerveusement.
Tellement bizarre ces temps-ci. Mon Dieu, pourvu qu'il ne soit rien arrivé.
On frappe à la porte.
Entrez.
C'est un domestique qui est entré. Madame, un commissaire désirait vous parler.
Faites-le entrer.
L'homme entre. Il est grand, mince, avec une petite moustache brune, habillé d'une redingote noire. Il s'incline et dit « Nous avons retrouvé votre mari, madame. »«
Où est-il ?»«
Dans... Il est mort. Je suis vraiment navré. On l'a retrouvé avec un cintre dans la gorge et un déshabillé sur lui. » Maxime aurait aimé retourner auprès de sa mère maintenant qu'elle est veuve, mais elle a refusé qu'il quitte le séminaire. Elle tient absolument qu'il devienne prêtre. Le temps a passé. Louise est repartie en province dans ses terres. Maxime s'ennuie au séminaire. Il est entouré de jeunes gens qui sont ou grossiers ou trop raffinés et qui tous ne caressent rien, ne connaissent rien à la vie. Quant à la foi, il ne l'a pas. Après 2 ans, il se dit qu'il a assez payé et qu'il a le droit de retourner à la vie. Il a demandé un entretien au supérieur qui le reçoit dans son bureau. Ce n'est pas celui qu'il a reçu. Le supérieur est un grand homme mince, à barbe et moustache blanche. Ses mains sont d'une finesse et d'une blancheur éclatante. Ses vêtements sont irréprochables, car pour lui, les habits et le corps doivent être le reflet de corps irréprochables. Passe 1 heure par jour le matin à sa toilette et se laver les mains et le visage plusieurs fois par jour.
Je vous écoute, jeune homme.
Mon père, après avoir bien réfléchi, j'ai pris la décision de quitter le séminaire.
Pourquoi ?
Je ne suis pas suffisamment fort pour être prêtre. Les habits ecclésiastiques ne me conviennent pas.
Votre destinée ne vous appartient pas. Seul Dieu sait ce qui nous convient. C'est en tant que prêtre que l'on devient prêtre. Seul Dieu décide de votre avenir. Restez avec nous.
Mon père, j'ai bien réfléchi et je veux partir.
Réfléchissez bien. C'est peut-être le manin qui vous dit de nous quitter.
Non, c'est moi et moi seul.
Le supérieur soupire.
Bien, je vois que que vous êtes décidé et têtu. En nous quittant, vous allez vous mettre à dos tous les catholiques. On va dire que vous avez profité de notre enseignement, de nous, et qu'en guise de remerciement, vous nous quittez. Vous serez traître de la même façon qu'un défroqué. Les portes vous seront fermées et vous ne trouverez pas de situation digne de ce nom. Toute votre vie, vous serez qu'un gratte-papier dans une banque quelconque, juive, bien entendu. Maxime se sent vexé parce que vient de lui dire le supérieur. Je fais cela par respect à la religion. Je sais que je serai un très mauvais prêtre, sans grande foi. Ne vaut-il pas mieux que je devienne un bon citoyen plutôt qu'un mauvais prêtre ? Cette phrase touche le supérieur et se dit qu'il est sincère. Il soupire et dit :
Bien, mon jeune ami, puisque vous voulez nous quitter, vous partirez. Vous le faites en toute conscience. Vous savez que si un jour vous désiriez revenir nous voir, vous le pourrez. Affronter la vie du monde avec une soutane, c'est plus facile, car elle vous protège et vous donne le respect. Je vais faire quelque chose pour vous. Est-ce que le travail de secrétaire vous plairait ?
Oui, monseigneur.
Bien sûr, ce sera en attendant que vous trouviez quelque chose. Je sais que vous avez besoin de travail, car après la mort de votre père, votre famille se trouve en grande difficulté financière. Je connais une personne qui a besoin d'un secrétaire. Je vais vous présenter à lui. Merci, mon père.
Et un mois plus tard, Maxime, accompagné du supérieur, entre dans l'hôtel des deux Mézières.
Saint-Germain, un domestique en livrée les mène au bureau de Monsieur le Comte. Domestique a frappé à la porte.
Entrez.
Ils entrent. Le domestique a fermé la porte derrière eux. Le salon est une vaste pièce avec une porte-fenêtre derrière le bureau. Les meubles sont Louis XV. Armand de Mézières se lève, leur fait signe de s'approcher et de s'asseoir près du bureau. Il porte une redingote grise.
Je vous en prie, messieurs. Je vous remercie d'être venus.
Et ils s'assoient.
Mon père, c'est le jeune homme que vous me recommandez.
Oui, monsieur le comte, je vous présente monsieur Maxime de Pressan.
Maman regarde Maxime et fait oui de la tête, puis dit :
Oui, je viens de prendre la succession de mon père qui vient de décéder il y a peu de temps. Je me trouve envahi de papiers et je dois avouer que je me sens un peu perdu dans tout ça. Il y a peu de temps, j'étais encore à l'armée. Les affaires, les comptes, les lois, c'est du chinois pour moi. J'ai pris un comptable, mais j'ai besoin aussi d'un secrétaire. Le supérieur a dû vous dire mes conditions. Oui, monsieur le comte. Êtes-vous d'accord? Oui, monsieur le comte. Vous serez demain matin à 10h. D'accord? Je vous veux à l'hôtel demain matin à 10h. Ici, vous m'avez bien compris. Oui, monsieur le comte. Et le lendemain, à 10h, il est revenu à l'hôtel de Mézières. On lui a montré sa chambre. Une grande pièce sous les combles, avec cabinet de toilette. La pièce est propre, puis on l'a menée à son bureau. Où il doit travailler. C'est un petit bureau qui est mitoyen à celui du comte. Une fois assis, le comte est venu le voir. Il lui a donné les lettres à répondre et à recopier pour la journée. À midi, on lui a servi un plateau pour son repas. Son bureau. C'est un privilège, c'est pour éviter qu'il soit avec les domestiques. À 20h, sa journée est finie, il sort du bureau. Avoir pris un potage et un peu de viande. En sortant du bureau, un domestique lui dit « Monsieur le comte et madame vous attendent pour passer la soirée avec eux. » Maxime n'ose pas refuser, mais il aurait aimé se retrouver dans sa chambre et se reposer. Il suit le domestique qui le mène au salon. Armand de Mézières se lève et s'approche de Maxime. Venez, mon ami, je vais vous présenter. Il le mène vers une vieille dame. Vêtue de noir, grande, maigre, assise dans un fauteuil à broder. Mère, je vous présente mon secrétaire, monsieur Maxime de Pressan. Enchanté, jeune homme.
Eh, Maxime. Vois, dans un coin du salon, en robe blanche, assise au piano, Gisèle. Gisèle, il croit rêver, Gisèle ici.
Et voici ma femme.
Sa femme. Elle se retourne. Il le regarde, met la main à son corps.
Madame, je vous présente mon secrétaire, Maxime de Pressan.
Elle est pâle et a deux doigts de s'évanouir. Son mari s'approche d'elle.
Vous n'êtes pas bien, mon ami? C'est un peu lasse.
Elle se lève. Et passe devant Maxime comme un fantôme et sort du salon.
Maxime a les jambes qui tremblent. Lui aussi est pâle.
Vous savez jouer au domino ?
Lui demande le comte. Il se reprend et fait oui de la tête. Après cette soirée qui a été un enfer pour lui, il est enfin dans sa chambre, dans son lit. Je l'ai retrouvé, c'est un signe. C'est un prêtre qui m'a mené jusqu'à elle. Et ce signe, c'est Dieu qui l'a fait pour nous réunir à jamais. Je vais la revoir et je lui dirai que nous serons unis à jamais. Il doit quitter son mari. Nous partirons ensemble, loin, très très loin. Gisèle est dans sa chambre. Elle non plus ne dort pas. Mon Dieu, pourquoi me donner cette épreuve? Je ne veux pas succomber à la tentation. Il faut que je sois forte. Mais pourquoi cette épreuve? Pourquoi, mon Dieu? Le lendemain matin, Maxime est tout excité et veut tout faire pour revoir seule Gisèle et lui dire son amour. Comme tous les matins, le comte lui a donné son travail pour la journée. Elle est partie pour la matinée. Une fois qu'il est parti, t'entends le tout pour le tout. Que m'importe le danger? Il sort du bureau. Et part à la recherche de Gisèle, en faisant en sorte de ne pas être vu des domestiques. Retrouve dans son jardin à regarder ses plantes. Lorsqu'elle le voit arriver vers elle, elle ne bouge pas et semble calme. Lui semble excité. Gisèle, enfin, je vous revois. Oui, vous me voyez comme... Vous voyez, je n'ai pas cherché à me soustraire à vous. Durant toute cette nuit, mais marchons. Elle est calme, c'est ce qu'ils font. Elle lui prend même le bras, sourit. Maxime est heureux. Vous savez, je n'ai pas peur de vous. Je disais que durant toute cette nuit, j'ai pensé à l'épreuve que Dieu nous a donnée. En nous mettant en présence l'un près de l'autre. Je me suis demandé pourquoi cette épreuve. Et puis, j'ai compris. C'est pour vous soustraire à la malédiction de votre famille. C'est pour vous aider. Maxime est surpris et prend peur. Que racontez-vous là, Gisèle? C'est simple, Maxime. Les fils payent les crimes de leur père. Votre père a mené une vie de débauche. Vous suivez cette mauvaise route. Il vous faut changer de route. Dieu vous a montré la bonne voie, vous devez la suivre et laisser celle de votre père.
Je vous aime, Gisèle. Ce n'est pas péché de vous aimer.
Si, Maxime. Car maintenant, vous me détournez de mon chemin. Je suis marié et un fils. Si je pêche, je souille mon mari et mon fils. Je ne dois pas, Maxime. Maxime change encore sa virée. Elle le regarde et lui sourit. Si vous m'aimez vraiment, il ne faut pas chercher à me voir, à me soustraire à mes devoirs, me souiller et souiller les miens.
Et mon amour pour vous, et vous aussi vous m'aimez,
c'est pour vous que je le dis aussi, car si vous, je vous aide à fauter, je vous aide à perdre votre âme.
Maxime, tente une dernière fois. Dieu nous a fait nous retrouver. Pourquoi alors?
Dieu, pour que je vous dise ceci et que vous retourniez sur la bonne route, pour que votre malédiction s'arrête.
Quelle est cette bonne route que Dieu me montre?
Et dans votre cœur, Maxime, mais vous ne l'avez pas encore vu, parce que pas assez pur pour cela.
Il lui dit, vous m'aimez?
Oui, je vous aime. Et c'est pour cela que je vous dis de partir, de me laisser, et que vous ne devez plus chercher à me revoir.
Oh, Mathilde, c'est dur.
Non, c'est beau, si vous faites ceci pour moi. Pour vous, je vous garderai toujours dans mon cœur, là où ce n'est pas péché, et je prierai pour vous.
Maxime a les larmes aux yeux, elle lui sourit.
Il faut être heureux, Maxime. La malédiction est finie. Vous êtes libre.
Elle l'embrasse sur la joue.
Maintenant, partez. Sur la bonne route. Et elle le voit s'éloigner pour toujours. Cette image, elle le gardera toujours dans ce corps. Cette image, elle la gardera toujours dans son corps.
Radio Canu vous a présenté dans la série L'écran radiophonique Maxime, dont c'était la 7e partie. Maxime, 7 heures d'émission, 1400 mètres de bande magnétique, 28 heures d'enregistrement, 300 heures de préparation, 350 pages dactylographiées. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement, CVR.